Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Est-ce que vous reconnaissez ces mots? C'est le cri de Jésus après 3 heures de souffrance à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces lignes, ces mots, ce cri a fait couler beaucoup d'encre. Ces mots, ce cri nous interpellent encore aujourd'hui. Elle parle d'un homme qui crie du plus profond de son cœur, une détresse, une solitude, peut-être même une incompréhension, pourquoi, le pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? John Stott, théologien anglais, dit qu'il y a 4 façons qu'on peut interpréter, que des personnes interprètent aujourd'hui. Elles sont pas toutes justes, mais 4 façons dont les gens interprètent ces mots de Jésus. Certains disent, c'est une perte d'espoir. C'est peut-être un manque de foi, des paroles de colère d'un homme qui se sent oublié, abandonné par celui à qui il a tout donné. Il pensait peut-être jusqu'au dernier moment que des anges allaient descendre et le sauver, l'enlever de là. Mais la réalité n'était pas là. Je pense pas que ce soit une bonne interprétation de ces mots. Croire que Jésus a manqué de foi, qu'il aurait péché à ce moment-là, ce moment qui est le sommet de tout son ministère. On pourrait même dire ce moment qui est au plus haut point de toute la Bible, tout le plan de Dieu. Jésus aurait-il failli dans les derniers mètres? Je ne pense pas. Il y en a d'autres qui disent que là, il exprime un sentiment de solitude. En fait, il n'est pas seul, Dieu il est avec lui, mais lui, il a l'impression d'être seul. C'est pas que Jésus manque de la foi, c'est pas qu'il a tort, mais il exprime un profond tourment de son âme, solidairement avec nous. Au moins on dit pas que Jésus pêche, mais je pense pas non plus que ce soit exactement la réalité de ce qu'il vit. D'autres parlent d'un cri de victoire. Alors pourquoi est-ce qu'ils parleraient d'un cri de victoire? Vous reconnaissez aussi ces mots, c'est le début du psaume 22. Et c'est ça le psaume qu'on va étudier aujourd'hui. Mais on en reviendrait après. Et c'est vrai qu'à la fin du psaume, on voit vraiment la victoire qui sort de ce geste de Jésus. Et on en a conscience. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait appuyé plutôt sur le fait qu'il vivait un tourment, le fait qu'il vivait dans la solitude, je pense pas non plus que c'était un cri de victoire. Il y en a d'autres, et c'est l'avis de John Stott, c'est aussi l'avis de Jean Calvin, et c'est l'avis que moi je partage. Jésus exprime la réalité de sa situation. C'est pas juste un sentiment de solitude. Il est réellement seul. Il est dans les ténèbres et il est complètement seul. Jean Calvin dit, si la croix n'était qu'une souffrance physique, Il y aurait eu la rédemption du corps. Mais la croix, c'était aussi une souffrance de son âme, de l'âme de Jésus. Un homme condamné et abandonné. Il y a donc réellement eu séparation de Christ et Dieu. Mais attention, c'est une séparation voulue et acceptée par le Père et par le Fils. Et pourquoi cela ? À cause de notre péché, de vos péchés, de mes péchés. Jésus, à ce moment-là, prend toute la colère et toute la justice pour toute l'humanité, pour tous les temps, en ces 3 heures, pour qu'il puisse y avoir une pleine justice. Dieu réconcilie le monde à lui par le sacrifice du Christ. Dieu s'est détourné de son Fils qui était parfait, qui ne méritait pas cette condamnation, et l'a abandonné pour qu'il se substitue à vous et à moi, qui nous le méritions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette réalité. Comment c'est possible? Et il faut aussi être clair que cette séparation, c'est pas la séparation de la Trinité. C'est pas la Trinité qui se divise, ou c'est pas une séparation en essence et en être. Mais on a ce mystère autour du fait que Jésus est 100% homme et 100% Dieu, et l'homme est abandonné là. Ne minimisons pas la croix. Ne minimisons pas ce que Jésus a vécu. Mais ne minimisons pas non plus la portée de ce que Jésus a vécu. Juste pour donner un témoignage rapide, je crois à Dieu depuis que j'ai 7 ans et je crois qu'il est mon sauveur. Et je crois qu'il est avec moi, que je marche avec lui. Mais pendant très longtemps, je minimisais la croix. Je me disais, c'était facile pour Jésus d'y aller. C'est le roi des rois, c'est le Dieu tout-puissant. C'était facile pour lui de payer le prix là. Et le fait de minimiser ce que Jésus a fait à la croix avait des implications dans ma vie qui portaient préjudice à Dieu, qui insultaient Dieu. Je vivais dans le péché et ça me dérangeait pas parce que je me disais, c'est pas grave. Jésus a payé le prix. C'est pas grave ce que je fais. C'est déjà couvert, c'était facile. Mais c'est très grave. Dieu ne joue pas avec le péché. Et on le voit dans cette expression extrême de souffrance. Que payer le prix n'était pas facile. Même pour le Dieu de l'univers. Ne minimisons pas la croix, la souffrance que Jésus a endurée, ni sa portée. Alors aujourd'hui, on va lire le psaume 22. C'est un psaume qui a été écrit par David, un des ancêtres de Jésus, 1000 ans avant ce que Jésus a enduré sur la croix. Donc, pouvez-vous vous lever pour la lecture de la parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du Basan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil aux lions qui déchirent et qui rugissent. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. S'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Amen. Ce psaume écrit par David, 1000 ans avant la résurrection, annonce en grand détail les souffrances de la croix de Jésus. En grand détail. Le verset 17, il annonce la crucifixion. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Le verset 19, ça renvoie à quand les soldats partagent les vêtements de Jésus. Du verset 7 à 9, mais moi je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel te le sauvera. Il le délivrera, puisqu'il l'aime. C'est presque mot pour mot la manière dont les passants l'injurent quand il est à la croix. Quand les magistrats lui disent il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Mais justement, il ne s'est pas sauvé lui-même pour sauver les autres. Le verset 2, quand Jésus écrit au bout de 3 heures de souffrance, c'est ce dont on vient de parler. Versets 15 et 16, qui font référence à quand Jésus sur la croix dit « J'ai soif ». Le verset 32, « Tout est accompli ». Son œuvre est accomplie. Les versets 20 et 22, « Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. » C'est quand Jésus recommande son esprit à Dieu. Et enfin, le verset 16, « Ma force se déchaisse comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Ça annonce le fait que Jésus est enseveli. On a tout. On a toutes les étapes de la croix qui sont annoncées il y a 1000 ans. Et ça a de l'importance, de la signification, parce que Dieu a prévu cette souffrance. Il a prévu toutes ces choses. D'énormes souffrances physiques, un contexte extérieur cauchemardesque. Certains disent que quand il parle des taureaux de Bazan qui l'encerclent, de nombreux taureaux qui ouvrent leur gueule contre lui, pareil au lion qui déchire et rugisse, il parle en fait du diable les anges déchus, les démons qui encerclent Jésus. Donc imaginez la scène, il fait noir, il vit des souffrances horribles dans son âme et dans son corps, et il est entouré de plus personne qui l'aime, que de gens et d'esprits de puissance qui rigolent de lui, qui le méprisent, qui aboient, qui l'impressionnent. Et il vit ses angoisses. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu de l'angoisse, mais j'ai vécu il y a quelques années, liées à diverses choses, des semaines d'angoisse. Des semaines et peut-être même 1 ou 2 mois d'angoisse. Tous les matins en me levant, dès que ça me lâchait pas. Et je priais, je demandais à Dieu, enlève-moi ces angoisses. Et il me les a enlevées au bout d'un moment, mais c'était pas tout de suite. Mais en tout cas, j'ai appris par ces angoisses ce que parfois d'autres peuvent ressentir. Et je comprends aussi, pas exactement, mais je comprends un petit peu l'angoisse de Jésus. Et lui aussi, il comprend très bien l'angoisse que chacun de nous peut vivre. Et c'est les souffrances physiques, les angoisses, tout autour de lui qui est perdu, et son père qui répond pas. Alors, il y a quand même de l'espoir, notamment dans ce psaume. Qu'est-ce que fait Jésus? Et on peut le suivre dans ce qu'il fait quand on est dans des moments de difficulté, des moments de difficulté peut-être physiques, peut-être on se fait injurier pour qui on est, peut-être qu'on est angoissé ou pour quoi que ce soit. Il fait deux choses. Il se remémore ce que Dieu a fait pour ses pères. Il se remémore ce que Dieu a fait pour lui quand il était bébé, quand il était le plus vulnérable. Son moment le plus vulnérable, c'était un petit bébé. Et il se rappelle de pourquoi il est là. Il se rappelle de la feuille de route, de où il en est et de ce que ça va apporter. Ce que ça va apporter, ce qu'il fait là. Et du pourquoi il le fait. Donc d'abord, il se remémore. Verset 5, c'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Jésus se remémorait toutes ces histoires que la Bible nous apporte de génération après génération qui est sauvée où Dieu intervient quand le peuple d'Israël crie à Dieu, quand quelqu'un crie à Dieu, Dieu le sauve. Donc il se remémore de tout ça. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Waouh, c'est magnifique. Nous, on a deux enfants en bas âge. Et c'est vrai que c'est incroyable, ces êtres si fragiles qui... C'est un miracle, la naissance. Leurs poumons n'ont jamais fonctionné. Ils respirent l'air. Et ils sont là. Ils sont mis dans les bras de leur maman, de leur papa, qui les protège, qui leur donne chaud, qui prennent soin d'eux. Et on peut penser à Noël. On peut penser dans cette nuit terrible dans un étable. Dieu, il avait le petit Jésus. Il était déjà son Dieu. Il prenait déjà soin de lui. Même déjà quand il était dans le ventre de sa maman. Il le gardait, il le protégeait. Il le faisait grandir. Il le nourrissait. Jésus se rappelle de ce que Dieu a fait pour lui et ce que Dieu a fait pour des générations de peuples. Et ensuite, il se rappelle de sa feuille de route, le pourquoi qu'il est là. Et je trouve ça incroyable que dans ce psaume, on a déjà tous les éléments. On a des scènes de louange et de glorification de Dieu juste exceptionnel. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Son corps, son âme sont dans les ténèbres. Mais sa vision, son cœur est dans les cieux. Et il célèbre Dieu parce qu'il vit. Il l'honore, il le glorifie. Ensuite, il a déjà ce regard lancé sur les nations. Il sait très bien qu'il ne le fait pas que pour Israël, il le fait pour toutes les nations de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car c'est l'Éternel qu'appartient le règne, il domine sur les nations. Il l'a fait pour toutes les nations. Et ensuite, il se rappelle encore. Je retrouve juste. Il se rappelle encore des faibles, de ceux qui sont méprisés, de ceux qui n'ont rien, qui sont dans des situations de détresse. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère et ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Jésus a vécu dans cette misère, il a vécu dans ce mépris, dans cette faiblesse. Il se dit même que je ne suis pas un homme, je suis un ver. Un ver, un petit ver de terre, écrabouillé. Le plus petit, le rejeton de David, on l'appelle, a fait des choses glorieuses. Et pour finir, je veux juste peut-être vous emmener à cet endroit où Jésus était, dans son esprit. Il pensait peut-être aux salles du trône de son père. On va juste lire Apocalypse chapitre 5. Parce qu'en fait, ce qu'il fait là, sur la croix, ce qui est annoncé 1000 ans avant, a des répercussions pour des milliers d'années après. Et on va le voir ici, Apocalypse chapitre 5. Je suis désolé, on a un peu beaucoup lu ce matin. On va lire ce chapitre et après on va pouvoir passer à la scène. Et pourquoi? Parce que la scène, c'est justement se rappeler de ce que Jésus a fait. Faites ceci pour vous rappeler de mon sang versé, de ma chair qui était déchirée pour chacun d'entre nous. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen !» et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as fait. Merci Seigneur de nous révéler, Seigneur, chaque jour, Seigneur, la réalité de ce que tu as fait dans nos vies et aussi pour tous les êtres humains, Seigneur. Merci pour ton cœur d'amour pour des hommes et des femmes de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Merci pour ton amour, Seigneur, pour les plus malheureux, ceux qui sont rejetés. Merci parce que tu connais ces situations, Seigneur, et tu nous aimes. Sois glorifié. Amen.